Salut à tous et à toutes, voici le mandarin merveilleux, les réducteurs de texte.
Salut Francis, salut à nos auditeurs et à nos auditrices. Et bah oui, c'est encore le mandarin merveilleux, les réducteurs de texte sur RTF 95,4 MHz. Et aussi, m'a-t-on dit, sur le DAB+.
Sur le DAB+, l'image locale et sur Internet, bien sûr. Et c'est une émission de littérature, de musique classique et de jazz.
Voilà, alors, je commence. La littérature, deux livres récents. Un livre d'Alain Finkielkraut qui s'appelle « Pêcheur de perles ». Alors, je veux dire que Alain Finkielkraut est tellement critiqué par tout le monde que ça me donne envie de lire son livre. Et puis, un autre de Laure Murat qui s'appelle « Relire ». Alors, c'est un livre intéressant aussi. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Voilà. Et alors, musique, de la musique classique. J'ai porté quoi ? Du Handel, j'ai porté du Couperin, j'ai porté du Schubert et du Bizet.
Voilà, puis il y aura du classique, mais je vous le dirai tout à l'heure, les disques sont prêts, ils sont là sur la console, prêts à être diffusés, car nous utilisons des vrais disques physiques.
Oui, alors, et vous, en plus, ils sont dédicacés.
Tous.
Et alors, attendez, j'en ai vu un où il y a une trace de baiser en rouge, un rouge à lèvres.
Pas du tout.
Oh, 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 oh. Vous êtes percé à jour. Bon, alors...
Allez, commençons donc.
Commençons par la musique classique. Oui. Alors, tout le monde connaît Carmen. Tout le monde. Carmen est l'opéra le plus joué dans le monde.
Il paraît qu'il est joué 24 heures sur 24, 365 jours par
Absolument.
An.
Absolument. Oui. Et alors, ce qu'il y a de plus, j'allais dire, de plus extraordinaire et aussi lamentable, c'est que la première de Carmen, ça a été un four. Et Bizet est mort. Alors, 1838-1875, il est mort, vous voyez, il est mort très jeune, 36 ans, et il n'a jamais connu le succès qu'a remporté Carmen. Voilà. Il est mort avant d'avoir vu que ce serait un tube international.
Alors,
il y a aussi les pêcheurs de perles, il y a aussi etc. Mais Bizet a été, bien sûr, comme tous les musiciens ou à peu près, a été un enfant prodige, et il a écrit très tôt des pièces diverses, et il y a un disque qui nous restitue fort heureusement toute son œuvre pour piano. Alors il a écrit beaucoup. Alors je vous propose d'écouter une grande valse de concert. Voilà, qu'il a écrit, il avait une vingtaine d'années, et interprété par, alors je n'ai pas trouvé son prénom, quelqu'un qui s'appelle Setrak, S-E-T-R-A-K. Et apparemment, il n'a pas de prénom, comme juste Leblanc.
Bon,
enfin, en tout cas...
Je suis sûr que vous allez mener votre petite enquête, parce que ça vous intrigue.
Oui, un peu, bon. Alors, je vous invite à écouter cette grande valse de concert donc de Georges Bizet, l'auteur de Carmen.
Oui, alors ce Sétrak, en fait, c'est le prénom arménien d'un pianiste d'origine arménienne, et même on peut dire turc. Parce qu'il est né à Istanbul, mais il est venu en France très jeune. Il a fait ses études avec Yvonne Lefebvre, Marguerite Long, etc. Et donc grand, enfin, il a fait des très belles études classiques. Alors, je crois qu'il a pris comme pseudonyme Yves Petit.
Oui, alors voilà, son nom français, puisqu'il a été naturalisé français. Mais son nom de scène et d'artiste, c'est resté Sétrak, c'est-à-dire son prénom arménien.
Voilà, et bon, mais il est mort il y a quelques années.
Voilà, après une longue et brillante carrière en France et à l'international.
Voilà.
Voilà, on a cherché pendant la discussion.
On apprend des choses dans cette émission. Voilà.
Même alors, en direct en plus.
Oui, en direct. Alors, est-ce que vous avez cherché des choses sur l'artiste suivante?
Oh ben là, c'est pas compliqué parce que c'est une amie. Donc là, il n'y a rien à chercher.
C'est une amie. Ah, d'accord.
Ben oui, c'est Silvia Ribeiro Ferreira, donc qui a sorti son disque dont je vous ai parlé il y a quelque temps, son disque Alma Branca.
C'est elle qui a fait une cagnotte.
Une cagnotte participative, voilà, pour produire, enregistrer, diffuser son disque.
Voilà, voilà.
Donc on peut le trouver, je crois, par exemple à Point Chaud à Limoges. Et elle est bien sûr Silvia. Est au saxophone, baryton et ténor. Elle a composé la plupart des morceaux de ce disque avec Antonio Ribeiro Ferreira, qui doit être très probablement de sa famille, puisqu'il porte exactement le même nom.
C'est fréquent. Encore qu'elle est d'origine portugaise, et donc il y a beaucoup de
oui, bien
patronymes
sûr.
Qui se ressentent.
Mais là, le hasard serait quand même curieux. Avec, je vous le rappelle, Xavier Parlant à la batterie, Lorenzo Naccarato, pianiste que nous apprécions beaucoup ici à RTF parce qu'on suit sa carrière depuis le début. Il est originaire de Toulouse, il travaille souvent ici à Limoges aussi. Et puis Adrien Rodriguez à la contrebasse. Alors l'autre jour, on a écouté Lusitanida des variations A, mais je vous propose aujourd'hui d'écouter la variation B.
Alors juste une question, Francis, est-ce qu'elle fait partie des photos qui sont exposées au CCM Jean Gagnant?
Oui.
Il me semble bien.
Absolument.
C'est rare de voir les femmes au sax baryton. Hein.
Tout à fait.
Et voilà. Alors, je ne sais pas si l'expo est encore visible.
Bon, écoutez, à l'heure où nous parlons, je crois que l'expo est clôturée.
Bon, alors c'est dommage, mais c'est comme ça.
C'était, vous parliez de l'exposition de Marilène Caco.
Voilà.
Jean-Paul
Gambier et al, comme on dit dans les publications universitaires.
Voilà, bah écoutez, nous écoutons cette composition. Alors, pendant que Jean-François se sert une tasse de thé en direct pour vous, auditeurs et auditrices de RTF, je lui demande quand même de prendre le temps de nous présenter un premier livre.
Oui, alors, je vous jure que c'est vrai. Dans cette émission, nous buvons du thé et pas des bières, voire des alcools forts. Bon, alors, un premier livre, c'est le dernier livre de Alain Finkielkraut. Ça s'appelle « Pêcheurs de perles ». Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont des textes relativement courts qui lui ont été inspirés, des textes qui font 4-5 pages, 5-6 pages, qui lui ont été inspirés par une citation qu'il a trouvé. Alors par exemple, celle-ci de Paul Valéry, le cœur consiste à dépendre. Je dépends de quelqu'un. Et alors c'est un texte assez étonnant qui commence comme ça. Un dimanche matin au petit déjeuner, celle qui allait devenir ma femme m'annonça que c'était fini, qu'elle me quittait, que sa décision était irrévocable. Et suit un développement assez long sur ce que lui fait cette rupture qu'il n'a pas vu venir. Et voilà, il dit « Dans le métro, je croquais des cachets de l'exomile comme un lapin de ses carottes, etc. » Voilà, donc c'est une chose un peu personnelle, ce qui tranche pas mal chez lui, et agréable à lire. Alors, aussi, ceci, avant le cogito, il y a bonjour. C'est une phrase d'Emmanuel Lévinas. Mmh. Et là aussi, il regrette que on se contente actuellement. Alors, il y a beaucoup de regrets d'usage actuel. Hein. C'est beaucoup un laudator temporis acti, comme on dit, vous savez, celui qui loue le temps passé. Mais il regrette qu'on s'adresse aux gens en leur disant juste bonjour. Pas bonjour monsieur, pas bonjour Francis, pas bonjour Yann, non, juste bonjour. Et voilà, bon, pas mal. D'autres textes aussi, plus politiques, d'autres textes sur l'enseignement. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, tout de même, Finkielkraut, qui est absolument cloué et réputé d'extrême droite, spécialement par les crapules de la France insoumise, en réalité, quand on lit ces textes, on se rend compte qu'on est assez d'accord avec lui sur pas mal de choses. Et pour cette raison-là, eh bien, c'est un livre, à mon avis, qu'il faut lire et qui nous donne à réfléchir, comme beaucoup je dirais même presque tous, j'ai pas lu tous ses livres, mais beaucoup des livres de Alain Finkielkraut, qu'on peut écouter aussi le samedi matin pour Réplique, qui est une émission qui est souvent intéressante. Pas toujours, souvent intéressante quand il parle de livres qu'il reçoit, par exemple, comme il l'a fait récemment, quelqu'un qui lui vient, où il discute sur Madame Bovary, où il discute sur les Trois Mousquetaires, etc. Voilà, donc ça s'appelle Pêcheur de Perles, j'allais dire Perles de Culture, non, Pêcheur de Perles, c'est chez Gallimard et c'est de Alain Finkielkraut de l'Académie française.
Thank you.
Oui. Bon, on a pas voulu laisser quand même un morceau qui se terminait sur la dominante. Parce que l'état en mi mineur, il se terminait sur un si. Donc on va terminer sur une vraie conclusion.
Bon, mais ça nous dit pas qui c'était.
Alors, c'était la sonate numéro 1 en mi mineur de Handel, interprétée à la flûte, alors on dit un traverso maintenant. Vous savez, ce sont ces flûtes baroques à une clé, jouées par Bartold Kuyken, accompagné. Alors, c'est une copie, sa flûte est une copie d'une flûte ancienne, et il est accompagné par Wieland Kuyken et Robert Conen, alors qui jouent tous les deux sur des instruments d'époque. Voilà, viol de gambe de 1690 et clavecin de 1755.
Oh, ils ont bien dû être un peu rafistolés.
Ouais, je pense.
Ah, bon. Ah mais ça va faire un choc, hein, parce qu'on va partir sur du jazz. Et je vous propose d'écouter le groupe qui s'est produit en clôture du festival Éclat des Mailles de 2024, qui s'appelle Black Lives. Et c'est une sorte de All Stars composé de musiciens qui ont tous une très belle carrière derrière eux et qui ont tous chacun leur propre ensemble, leur propre formation, et qui de temps en temps se réunissent pour ces spectacles Black Lives. Alors tout est en double. Il y a deux pianos, il y a deux grands pianos, il y a deux batteries, il y a deux saxophonistes, il y a deux chanteurs-chanteuses, il y a deux guitaristes.
Il y a deux chefs, non.
Il y a un seul contrebassiste et il y a plein de chefs en fait. Alors, c'est un ensemble qui s'est rassemblé autour du bassiste Reggie Washington, qui est un excellent bassiste aussi bien en basse acoustique qu'en basse électrique, vraiment, et qui porte l'ensemble à lui tout seul. Et puis on y retrouve par exemple le pianiste Grégory Privat, qui est français et qui est le compositeur du morceau qu'on va écouter, qui s'appelle People of Earth, donc le peuple de la terre, quoi, finalement.
Bah, oui.
Et c'est un peu ce qu'il représente, parce qu'il y a des musiciens français, mais américains, mais africains. Vous voyez, c'est une sorte de melting pot musical. Alors, on y retrouve, entre autres, le saxophoniste ténor Jacques Schwarzbart, qui, lui, est français, enfin, originaire de la Martinique, je crois, qui a son propre ensemble, qui est venu au festival il y a quelques années, qui est une star internationale. On y retrouve aussi Pierrick Pédron, saxophoniste français, lui aussi très connu, qui a une très belle carrière, qui est absolument magnifique. Et puis, je ne vais pas vous citer tous les musiciens, parce qu'ils sont, nombreux sur scène. Et c'était vraiment, moi je trouve, un spectacle de conclusion tout à fait convaincant, avec des musiciens qui ont une belle carrière derrière eux, mais qui innovent encore, qui recherchent, qui ne se contentent pas de jouer un petit peu sur leur laurier, en quelque sorte. Et je trouve ça, j'ai trouvé que c'était très bien, parce que souvent, pour le dernier concert d'un dimanche après-midi, eh bien, on présente des artistes assez consensuels, qui jouent quelque chose qui est très beau, mais sans réelle surprise. Et là, je dois dire que c'était vraiment très enthousiasmant. Voilà, alors on écoute People of Earth, composition de Grégory Privat, avec l'ensemble Black Lives. voici venue l'heure du deuxième livre de cette émission.
Deuxième livre, alors, de Laure Murat, relire une enquête sur une passion littéraire. Alors d'abord, un mot sur Laure Murat, qui est une personne tout à fait extraordinaire. Alors, elle enseigne la littérature française à UCLA, où elle vit, en Californie, à Los Angeles, où elle vit. Elle vit avec une femme, c'est une lesbienne tout à fait assumée. Et c'est d'un côté, en fait, c'est la princesse Murat, c'est l'arrière-petite-fille ou l'arrière-arrière-petite-fille de Murat, celui de Napoléon Ier, d'un côté, et de l'autre côté, sa mère, etc., ça vient du duc de Luynes. Voilà, c'est vraiment la crème de la crème de la crème de la noblesse française.
Oui, mais attendez, entre des descendants de Napoléon et des Bourbons, ça fait quand même pas bon ménage, normalement.
Eh ben, la preuve que si, finalement, ses parents... vous savez, il y a des... Comment dirais-je... des considérations financières qui ont beaucoup joué. Bon. Et d'ailleurs, elle a, je vous en parlerai prochainement, elle a écrit un livre qui s'appelle Proust, un roman familial. Elle explique comment pendant toute son enfance et toute sa jeunesse, elle a fréquenté des gens qui sont les gens que Proust a dépeints dans À la recherche du temps perdu. Ces gens qui sont dans les salons avec toutes leurs tous leurs défauts, leurs caractéristiques, et Laure Murat est vraiment sans indulgence pour toute cette classe sociale qu'elle connaît très bien et qu'elle méprise et dont elle stigmatise à longueur de page le manque de culture, la sottise, l'arrogance, l'antisémitisme, etc., etc. Et alors elle-même raconte, alors pas dans ce livre, mais ou peut-être, elle raconte comment quand elle a avoué à sa mère quels étaient ses penchants homosexuels, sa mère lui a dit bon ben on se reverra plus ou quelque chose comme ça. Elle dit et je ne l'ai jamais revu, jamais, jamais. J'ai dû lui écrire une ou deux lettres auxquelles elle n'a jamais répondu, etc. Ce qui montre que on peut être de la grande noblesse et être complètement con. Voilà. C'est pas forcément lié. Alors, sur ce livre, donc sur Proust, roman familial, je vous en parlerai lors d'une autre émission. Livre passionnant, vraiment. Alors, relire. Enquête sur une passion littéraire. Et la jaquette nous dit « Pourquoi garde-t-on ces livres, sinon pour les relire un jour ?» Et alors, elle a écrit, elle a envoyé un email à 200 personnes qui étaient des écrivains, pour la plupart, ou des éditeurs, et elle leur dit « Qu'est-ce que vous gardez comme livre ?» Alors voilà, elle leur envoie un questionnaire. Hein, quelle est votre première expérience de relecture quand vous étiez enfant? Quels sont les mots qui caractérisent votre expérience de la relecture? Répétition, reprise, réinterprétation, redécouverte, etc. Bon, il y a beaucoup de questions. Et donc, elle a envoyé tout ça à des gens très connus pour certains, moins connus pour d'autres, mais par exemple, je sais pas, Annie Ernaux, Olivier Rollin, Céline Minard, voilà, Cécile Gilbert, Philippe Forest, Annie Ernaux, voilà, plus ou moins connus. Elle leur demande, elle leur dit, est-ce que vous relisez? Qu'est-ce que vous relisez, en gros, et pourquoi relisez-vous, et qu'est-ce que ça vous apporte? Et c'est tout à fait intéressant à lire. Et on se rend compte que... Alors d'abord, il y a des gens qui relient... Alors il y a une, je ne sais plus qui raconte qu'elle relit à peu près tous les ans les 4 volumes des 4 filles du docteur... ou les 6 volumes des 4 filles du docteur Marsh. Elle dit, c'est un livre qui est assez nul, mais je l'aime beaucoup, je le lisais quand j'étais enfant, je le relis, j'aime bien. Voilà. Alors, pour beaucoup d'entre eux, c'est des livres réputés difficiles. C'est Proust, c'est Malcolm Lowry, c'est Robert Musil, c'est Joyce. Mm-hmm. Ce sont des gens comme ça. Et alors, certains disent, je le relis parce que chaque fois j'y trouve quelque chose de différent. Et il y en a un qui cite la belle phrase de Roland Barthes qui dit... Merveille de Proust où on ne saute jamais deux fois le même passage quand on relit. C'est bien, ce qui est bien vu et ce qui est absolument vrai. Donc il y en a, parce qu'ils y trouvent sans cesse quelque chose. Alors il y en a d'autres qui se disent, bon, j'ai calé la dernière fois, je vais réessayer. Et puis ils vont un peu plus loin et puis ils calent, etc. Donc chacun donne ses bonnes raisons. On parle pour lui et nous pose évidemment la question, qu'est-ce qu'on relit? Et pourquoi est-ce que je le relis? Et voilà, pourquoi gardons-nous les livres, outre pour faire un peu de déco? Mais si, alors si on se posait honnêtement la question, en regardant notre bibliothèque, combien on pourrait laisser partir sans regret? Ben, il y en aurait peut-être pas mal.
Il y en a pas mal. Moi, j'ai regardé, il y en a, je me suis dit, mais j'ai lu ça. Mais quand est-ce que j'ai lu ça?
Et voilà.
Qu'est-ce que ça fout, là?
Alors, est-ce que je serais disposé à le relire? Alors, aussi, expérience, et là, personne n'en parle, mais expérience du confinement au moment de la Covid. Et je me rappelle que, moi, je me suis dit, j'ai beaucoup de livres chez moi, je vais en relire, c'est pas grave. Et il y en a que j'ai relu avec intérêt, où j'ai trouvé d'autres choses, mais pas tellement finalement. Une fois que c'était lu, c'était lu. Et le relire, c'était de la répétition. Bon, c'est un livre intéressant que j'ai lu avec plaisir, sur donc ce livre de Laure Murat, « Relire, enquête sur une passion littéraire », et c'est aux éditions Flammarion.
Thank you.
Voilà, deux cycles d'impromptu de Schubert, un premier 1827, un deuxième 1828. Et là, nous écoutions le premier impromptu du premier cycle. C'est pour ceux qui aiment les références, c'est l'opus 90 de Deutsch 899.
Attendez, j'ai pas eu le temps de noter.
Jouer sur un pianoforte, de Matthias Müller de 1810. Donc, contemporain de Schubert, Schubert mort à 31 ans, là aussi. C'est absolument. Il y a des génies et ils meurent jeunes. Et ce piano a été restauré.
Il y a des crétins
qui vivent vieux. Et alors, donc, ce piano a été restauré. Et alors, je dois dire, personnellement, je préfère Schubert jouer sur un beau piano Steinway, pas forcément les grands concerts, mais un beau piano Steinway qui ont un son bien rond et bien joli. Mais chacun son truc, et c'est comme ça que Schubert les entendait quand il les jouait. Voilà, c'est un peu de l'archéologie quand même.
Bon, alors on va retourner au 21e siècle, dans ce cas.
Ah oui, parce que alors là, les instruments anciens, c'est pas... les jazzmen, ils jouent sur des instruments moderne.
Ah, ça serait marrant de retrouver les pianos sur lesquels ils jouaient au début du XXe siècle, des pianos un peu un peu sec.
Et un peu désaccordé parfois.
Un peu désaccordé, beaucoup même. Bon, alors, mon chouchou de l'année 2024, moi, c'est Léon Fall, le saxophoniste, et toute sa joyeuse équipe, en particulier le pianiste Gauthier Thoux, qui mène par ailleurs une belle carrière de son côté aussi. J'espère qu'on aura l'occasion de les voir l'un et l'autre ensemble ou séparément sur des scènes à Limoges, avec le non moins talentueux Zachary Ksik à la trompette. Alors j'ai eu la chance de les voir en public cet été à Argenton sur Creuse, beau petit festival d'été. J'ai bien sûr leur disque dédicacé par tous.
Oui, vous êtes toujours snobisme.
Et alors, il n'y a que des compositions de Léon Fall sur ce disque, sauf une qui est une reprise de Naïma de John Coltrane. Et bien c'est justement cette reprise que je vous propose d'écouter.
Voilà, très très joli son, très très bel ensemble aussi.
Ah oui,
mais ils jouent ensemble, c'est extraordinaire.
Tout est
la
fait.
Précision, hein, ouais, la précision. Bon, on s'imagine parfois que c'est un peu improvisé, n'importe quoi.
Non.
Ouais. Hein. Ça arrive.
Ça arrive, mais il y a quand même des heures de boulot avant que ça arrive.
Là, ouais. Là, c'était pas le cas. Bon, en tout cas, c'était pas le cas, mais c'était le dernier morceau de cette émission.
Et oui,
car on vous dit à la semaine prochaine sur RTF 95,4 MHz. Merci Francis pour la parfaite réalisation technique.
Merci Jean-François
pour ce soir de jazz qu'on entend nulle part sur d'autres radios.
Si, un peu sur FIP, mais bon, oui, il faut pas le dire.
Voilà. Allez, en tout cas, salut à toutes et à tous. Thank you.